Je trouve que vous êtes un peu surréaliste, Pierre. Est-ce que je peux vous dire ça?
Oh oui, c'est
Ça ne vous
bon.
dérange absolument pas.
Oh,
Puis
c'est
d'ailleurs,
bon.
chez vous, quand on lève les yeux, on regarde autour, c'est vraiment un univers. Je sais pas, l'idée que je me fais d'un appartement d'un surréaliste, j'ai l'impression d'entrer chez vous comme il y a des petites pierres gravées, il y a bien sûr des dessins de Françoise, votre épouse, et puis il y a tout cet univers bizarre.
Il y a du désordre un peu.
Oui, mais.
Je ne sais pas ce que serait l'ordre, d'ailleurs. Non, j'ai essayé de ranger les bouquins. Une fois, j'ai essayé un truc, mais c'était pas bien. J'ai essayé de les ranger par ordre d'après les grades dans l'armée des auteurs, mais ça marche pas.
Non, mais quand je dis surréaliste en parlant de vous, c'est aussi parce qu'il y a une grande complicité dans ces années-là avec Tardieu, par exemple, ou quelqu'un que vous admirez beaucoup.
Oui, Tardieu, je l'aime beaucoup, mais lui ne se considérait pas comme
Non,
surréaliste.
non,
Hein.
non.
Pas du tout. Non, mais
Mais
non,
vous
il
non
se trouve
plus.
que les surréalistes. Il y a eu un moment où nous étions surréalistes, pour employer le pluriel encore une fois. C'est les années 42-43. Il y avait, en l'absence des grands surréalistes qui étaient absents de Paris à cause de la guerre. Il y avait des nouvelles revues qui se mettaient en place. Il y avait par exemple La main à plume que Noël Arnaud allait faire. Bon. Et ça, tout ça, c'était vivant. Donc j'étais tout à fait intéressé par ça. Oui, ça c'est vrai.
Aujourd'hui, c'est mercredi.
Oui.
Et ça tombe bien, c'est mercredi, parce que je crois que c'est un jour faste pour vous, mercredi.
D'abord, pour des tas de raisons, le mercredi. Il y a un petit poème de Benjamin Perret qui proclame que le mercredi, c'est l'anniversaire de la découverte du Persil. C'est une bonne chose quand même. Et deuxièmement, le mercredi, c'est un bon jour pour Madame Bovary, surtout.
Semble-t-il.
Bon, ça, c'est une autre histoire.
C'est incroyable, hein, comme Madame Bovary et Gustave Flaubert laissent plein de traces dans vos livres. Et j'ai retrouvé l'histoire du mercredi, justement, donc du mardi, dans l'autobiographie d'un lecteur, mais on le retrouve aussi dans d'autres livres de vous chez Verdier. Oui. Bon, ben, je suppose que vous êtes conscient quand vous le faites, Pierre. D'ailleurs, le fait que Gustave soit un de vos personnages, je veux dire, il arrive assez souvent, Gustave, hein,
Oui, il y a plusieurs Gustave. Oui. C'est quelqu'un dont les parents sont un peu flaubertiens, quoi.
Bon, alors on le sait, c'est plus une. C'est devenu une
Hein?
petite légende. On sait que vous avez lu un certain nombre de fois, comme vous dites,
Ouais.
Madame Bovary. Et que vous êtes très très attachée à ce livre, à ce roman, puis à l'œuvre de Flaubert en général. C'est arrivé quand ça, Flaubert? Patatras.
C'est arrivé assez tard, finalement, et je ne sais plus comment c'est arrivé, d'ailleurs. C'est arrivé dans les années 70, mais je ne sais pas pourquoi. Je crois quand même que c'est pour ça que ça répond à l'histoire du mercredi. Je crois quand même que l'ayant lu, probablement deux ou trois fois de suite, comme ça, je me suis aperçu que ce qui est arrivé de bon à Madame Bovary se passait le mercredi et le jeudi. Ce qui lui arrivait de mauvais se passait essentiellement le dimanche et le mardi. Et ça m'avait amusé de remarquer ça. Et puis après, ça m'a amusé, parce qu'il faut toujours commencer ses phrases par ça m'a amusé d'eux, sans ça, j'avais pas de raison particulière de regarder de ce côté-là ce qui se passait. Je me suis aperçu un peu plus tard que quelque chose qui, dans la vie de Flaubert, avait eu l'importance pour Flaubert, s'était passé dans la nuit d'un mercredi à un jeudi. Mais tout ça, je résume, ça a l'air simple, mais en fait, c'est pas simple du tout. Ce qui s'est passé quand il avait 15 ans, il allait avoir 15 ans plutôt, c'est que ses parents ont été invités chez des châtelains des environs chez le marquis de Pomereux, au château du Héron. Et là, c'est la première fois que Gustave, jeune, a vu, disons, des gens du grand monde, ou en tout cas jouant le grand monde. Enfin, c'était des gens, d'ailleurs, de noblesse du coin. Il y a eu le dîner, il y a eu le bal, et il y a eu la nuit tout entière. C'est passé comme ça. Bon. Et il y a plusieurs choses qui l'ont frappé, hein, et qui frappent également Madame Bovary, d'ailleurs. Par exemple, il y a une fenêtre, il y a des mendiants qui regardent par la fenêtre ce dîner. Et on voit leur tête. Bon. Et il se trouve que on ne sait. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais c'est rigolo à cause de ça. C'est un petit peu compliqué, mais d'arriver à la quasi-certitude que ce mercredi et ce jeudi-là ont eu une importance pour lui. Parce qu'il l'a noté deux ou trois fois dans des papiers privés. Et il le raconte la dernière fois, presque publiquement, quand il est en Égypte. Il raconte une nuit passée avec une merveilleuse prostituée qui s'appelle Kouchoukanem, et il raconte qu'en sortant de chez elle le matin, il est allé chasser, et que cette matinée lui a fait trouver ressemblante à cette soirée d'il y a longtemps, passée au château. Et le rapprochement entre ces deux dates, alors, m'a beaucoup amusé, parce que il ne donne pas les dates précises. Il dit c'était dans la fin des vacances de ma quatrième à la troisième. Et souvent il y avait des incertitudes, on donnait des années. C'était pour la Saint-Michel. Et je me suis rendu compte que cette année-là, pour la Saint-Michel, le jour de la Saint-Michel était un
mercredi.
Était un jeudi. Donc le bal avait lieu dans la nuit du mercredi au jeudi. Bon, je crois que c'est pour cette histoire de jour que c'est par cette histoire de jour que j'ai commencé à entrer d'une manière un peu insistante dans Madame Bovary, à le lire comme quelque chose dans lequel il y avait à trouver beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de ressemblances entre des pages et des pages.
Alors, ce qui est drôle, on peut dire aussi que moi ça m'amuse, c'est que quand on vous lit, vous, j'allais dire vous êtes un peu culotté, mais c'est vrai que Flaubert est constamment présent avec vous. On a l'impression qu'il est là et qu'il assiste à votre écriture, et de temps en temps vous le citez quasi, et je me souviens de la phrase qui aussi vous a beaucoup intéressé, les mouches qui remontaient ça vous la citez quasi textuellement dans je crois que c'est je sais plus si c'est la nonchalance ou
dans le cidre resté,
oui, de toute façon. Mais il y a d'autres exemples, hein, où il est présent avec vous. On va souvent du côté de Rouen dans vos livres aussi. Et puis les pyramides, c'est l'Égypte.
Oui.
La tante, par exemple, la tante qui est un des personnages qui revient aussi, hein, deux fois dans différents livres. Une tante, on ne sait pas qui.
La tante de Brossard.
La tante de Brossard. Mmh. Alors elle, le jour de la Saint-Michel également. Enfin, on sent toujours ce rapprochement entre Flaubert et vous. Vous le convoquez en quelque sorte.
Oui, je crois, je me permettrai pas, mais je crois que ça fait partie des choses qui existent, comme la révolution de 48, celle de 89. Je veux dire que je sais qu'il y a eu la Saint-Michel, quoi. Comme il y a eu le camp du drap d'or, je m'en fous, le camp du drap d'or, ça m'intéresse pas. Enfin, en tout cas pas en ce moment. C'est-à-dire c'est quelque chose de certain qui a eu lieu. Je suis sûr que cette chose a eu lieu. Je parle de la Saint-Michel au château. Et c'est un fait d'histoire, pour moi, d'histoire personnelle. D'histoire personnelle qui ne m'est pas personnelle non plus. Donc, ce qui m'est personnel seulement par par l'habitude qu'a pris Madame Bovary d'être tout le temps à côté de moi, si je puis dire. Enfin, je parle du livre. Je fantasme pas, je l'imagine pas du tout, Madame Bovary. Là.
Oui, n'empêche que ça vous empêche pas d'avoir des sentiments et des ressentiments, par exemple pour le personnage de Léon, qui sait des choses que vous ne savez pas. Ça vous agace.
Oui. Non, enfin, je veux dire, c'est pas le personnage de Madame Bovary qui m'intéresse le plus dans Madame Bovary, on va dire. C'est, je sais pas quoi, d'ailleurs. C'est le livre. C'est vraiment un livre. De temps en temps, il m'arrive de dire s'il n'y avait qu'un livre et si c'était ce livre-là, il n'y en aurait pas de second. Je ne sais pas comment. Il y a eu un moment, un long moment, où il n'y a eu qu'un livre, et après il y en a eu un autre, je ne sais pas comment, par quel hasard. Bon. C'est une situation à laquelle je pense souvent, finalement. Je crois que tout le monde y pense un peu, tout le monde pense un peu à. Et prie un peu pour qu'un jour il y ait un seul livre, finalement. Écrit par peu importe.
Alors, ce qui m'étonne néanmoins, c'est que c'est un roman, Madame Bovary, on est d'accord. C'est un roman.
Oui,
c'est donc, c'est
fait,
une fiction.
Oui.
Et vous aimez Madame Bovary, vous n'aimez pas trop la fiction.
Oui, oui.
Comment vous faites avec cette contradiction-là, par exemple, pour Madame Bovary?
Non, il faut dire ce que j'aime pas dans la fiction, d'abord. J'aime pas bien être manipulé. C'est-à-dire que j'aime pas qu'un monsieur avec une plume ou un crayon ou un ordinateur s'arrange pour me tirer des larmes du corps ou du cœur, je sais pas quoi. Pas d'où partent les larmes. J'aime pas ça. Bon. C'est pas l'histoire de l'histoire de Madame Bovary m'intéresse pas tellement, donc je me sens pas manipulé par elle. Puis je la connais très bien, je sais très bien ce qui va se passer. La fiction, je ne la lis plus comme une fiction, je la lis aussi comme quelque chose qui est entre la fiction et la réalité, quoi. Ce que j'aime pas, c'est particulièrement, et je supporte surtout ça très mal au cinéma, j'aime pas vraiment, je déteste les films d'horreur, tous ces machins-là, j'ai horreur de ça. Et même quand l'horreur est douce, ça m'agace aussi. J'aime pas la fiction. Ouais. Mais bon, j'aime bien savoir comment elle marche. Mais on peut pas. Votre question, je l'accepte et je la prends, mais Madame Bovary n'est pas le livre le plus, comment dire, le plus manipulant qu'on puisse imaginer tout de même. On n'est pas manipulé par Madame Bovary, on n'est pas. Si ? Proust est plus manipulant que Flaubert, par exemple.
Est-ce que cette notion de manipulation, c'est il y a Gide aussi qui c'est vous qui me le disiez un jour dans Palude qui nous réveille un petit peu à cet égard.
Oui. Non, mais ça Palude, ça c'était pas tant. Là, c'est un livre qui n'est pas du tout écrit pour être cru. Ça, le problème. Tandis que c'est assez rare les livres qui sont pas écrits pour être crus. Et on peut dire presque tous les livres qui sont écrits pour être crus, enfin toutes les fictions qui sont écrites pour être crues, sont des livres forcément manipulants. Non. Mais enfin, je pense pas que Madame Bovary soit l'un des plus manipulants. Je pense qu'il y a des Balzac qui sont plus manipulants. La cousine bête, par exemple, Père Goriot même, sont des livres, des fictions plus manipulantes. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a manipulation, c'est vrai. Oui. Mais le fait que j'aime, que je déteste, j'aime pas être, me sentir manipulé et qu'il y a des romans que j'aime beaucoup, c'est en effet une contradiction. Mais ce n'est pas cet après-midi qu'on va s'en sortir parce que j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça.
Non, mais il y a une chose qui m'a. Non, mais ça. D'accord, je suis d'accord avec vous, on ne va pas s'en sortir cet après-midi. Surtout que, en fait, le verbe croire n'est pas anodin. Le verbe croire, vous qui aimez la grammaire et les mots, c'est pas anodin ce verbe croire.
Ah non, bien sûr.
Être cru, quand vous dites c'est vrai, je vous lisais des phrases l'autre jour, des phrases de vous, je les trouvais très belles, et vous me disiez c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, c'est, vous dites ces phrases, c'est possible, c'est de l'ordre du possible. On tourne autour de quelque chose là dans cette notion de vérité, de par le bizarre même, des formules qui sont irréductibles presque. Quand vous écrivez, vous avez parfois des formules irréductibles. C'est dur de s'en sortir après.
Non mais la question de savoir si s'il y a un rapport avec la vérité dans un livre, bon, il y a forcément toujours un rapport avec ce qu'on estime être la vérité. Ça n'est pas le problème de la manipulation, ça, le problème de la vérité. Hein. C'est deux choses très différentes. Ce que j'entends par manipulation, c'est le fait d'être de la part d'un auteur, le fait de vouloir émouvoir un lecteur à l'aide d'actions supposées vraies par lui. Bon. C'est la raison qui fait qu'il y a des gens qui pleurent en lisant un livre. C'est vrai. Bon.
Ça vous arrive, vous ? Hein ? Ça vous est arrivé ?
Oh, ça a dû m'arriver, oui, quand même. Mais j'ai oublié. Un quenot, peut-être. C'est possible. C'est la rue d'hiver, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je disais là ? Je ne me rappelle plus.
Qu'un livre. On parlait de la croyance, hein, de croire ou non dans une histoire, quand un auteur écrit.
Non. Vous parliez de la vérité, et ça n'est pas parce que dans un livre, il y a. Ou dans quelque chose, dans une fiction, ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 10 phrases, ou 20 phrases qui vous sonnent vraies pour vous. C'est pas pour autant que la manipulation soit permise, si vous voulez. C'est pas, on peut être vrai et en même temps, on peut sentir que quelque chose paraît vrai et en même temps regretter que ceci soit vrai, que ce vrai-là vous soit donné à l'intérieur d'un mouvement de manipulation.
Certes.
Hein, ça que je veux dire. C'est un peu. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est le contraire. Circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, bon, faut pas exagérer, mais c'est. J'ai toujours l'impression d'exagérer quand je dis quelque chose, de toute façon.
On va peut-être pas. Vous avez raison, on va pas régler la question du fait de croire ou pas cet après-midi, mais
ouais.
Je pense que dans l'amour que vous portez à Flaubert, il me semble bien qu'on reviendrait un peu sur l'idée de grammaire d'avant-hier. C'est-à-dire qu'il y a un attachement à la syntaxe, à la grammaire des phrases de Flaubert. Et il me semble bien que. Dans votre lecture, vous attachez, dans votre décryptage même de l'écriture de Flaubert, vous attachez beaucoup à la construction, ce qui est tout à fait juste. Et puis vous soulignez les phrases, vous les regardez, vous les remettez dans...
Au choix des temps aussi, au choix des temps des verbes, oui. C'est évident, quand on lit « Une rivière passait sous un pont », c'est pas indifférent non plus. Parce que... Est-ce qu'elle y passe toujours ? Est-ce que c'est une habitude aussi ? Est-ce qu'elle passait ce jour-là sous un pont ? Brusquement, il y a une fragilité du paysage là, qui s'installe.
Est-ce que la ressemblance a à voir avec la mémoire ?
Oui, forcément. Mais...
Parce que vous dites que... Un livre, vous dites souvent qu'un livre se souvient des pages précédentes. Vous le dites pour Madame Bovary.
Ça c'est vrai, oui. Ça, c'est Neffs qui dit ça de Bovary. Mmh. C'est vrai. Il y a des. Je veux dire, quand elle n'a pas encore d'enfant, qu'elle est toute seule et qu'elle va se balader dans la forêt, avec, elle a déjà son chien, néanmoins. Bon. Il y a une description de la forêt qui est ce que bon, ce sont des hêtres, je crois. Et puis quand elle va dans la forêt avec Rodolphe, c'est là qu'elle va devenir sa maîtresse. C'est également la forêt. Ce ne sont pas des hêtres, ce sont des sapins. Mais les sapins et les hêtres sont dans la même disposition. C'est-à-dire qu'elle a le même sentiment en les doublant, si je puis dire. Parce qu'elle est à cheval. Il est évident que ce que Flaubert appelait la besade, là, est une répétition meublée, si je puis dire, avec l'ensemble des comédiens, de ce qui s'est passé en solitaire, disons, de 150 pages plus tôt, quoi. Ça, c'est vrai. Mais la ressemblance, c'est pas la mémoire. C'est idiot tout à l'heure, là, parce que je ne sais pas où il faudrait chercher dans Proust, mais il y a une merveilleuse description de la ressemblance qu'il y a entre Gilberte et Swann et Odette, qui donnerait bien une réponse à ça, mais il faut que je le trouve, quoi.
Mais toujours dans Madame Bovary, vous avez une thésette, j'aime bien que vous dites ce mot thésette, vous avez une thésette au sujet de Binet, qui est très très belle, que vous dévoilez dans Autobiographie d'un lecteur, et où il apparaît, si on vous lit bien, que Binet serait peut-être une forme de Flaubert, de manipulateur, lui, en tout cas.
Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut raconter ça à peu près clairement?
Donc, c'est très beau aussi parce que quand vous en parlez, vous rapprochez la construction de la pensée d'Emma et ce que fait Binet, ce travail de tourneur. Et ça, c'est magnifique. Comment vous en êtes arrivé à découvrir cette chose-là? En lisant, je suppose.
Bon, alors, faut dire qui est Binet. Binet est un. Dans le village. Binet a une petite importance par son passé. Il est ancien percepteur, ancien carabinier, c'est assez rare, à la fois ancien percepteur, ancien carabinier. Et depuis qu'il est à la retraite, il ne fait plus rien sauf qu'il fait marcher son tour toute la journée. Donc, à Yonville, le pays où vit Emma, on sait que tous les jours, tout le temps, Binet fait marcher son tour. Bien. Ce qui m'a frappé, la raison pour laquelle ce personnage est tout à fait frappant, je crois qu'il faut commencer par là quand même, c'est que dans la dernière partie de Madame Bovary, quand elle cherche désespérément 3000 francs pour les donner à qui elle les doit, sans ça la maison va être saisie, etc., elle va voir le notaire qui lui refuse, etc. Et puis elle va voir Binet, et sans raison, parce que Binet et elle ne se fréquentent pas. Et c'est la seule scène de tout Bovary qui est une scène muette ou sourde, si vous voulez. On ne comprend pas, toujours à cause du tour qui marche, on ne comprend pas ce qu'ils se disent. Alors, ça fait problème. Pourquoi elle va voir Binet? Pourquoi bon. Et elle fait une proposition à Binet qui visiblement le choque, puisqu'il dit quelque chose comme « Y pensez-vous, madame ?» Et on entend « Y pensez-vous, madame ?» parce que il a dû tellement être choqué qu'il a dû lever le pied de son tour. Et un peu de bon silence. Alors pourquoi est-ce que cette scène, qu'est-ce que c'est que ce Binet dont Flaubert a préféré qu'il soit muet? Alors d'abord, ce type, ce Binet, il a quand même une certaine complicité avec objective avec Emma. Un matin, qu'elle revenait de chez son amant, très tôt le matin, lui, Binet, ancien percepteur et ancien carabinier, donc personnage un tout petit peu assermenté en quelque sorte, chassait tranquillement le canard caché dans un tonneau, ce qui est entièrement interdit. Et il voit au bout de son fusil, il voit Emma. Et il sort, et il lui dit quelque chose, je ne sais plus la phrase par cœur, mais il lui dit « quand on voit un fusil, il faut crier ». Et ils sont tous les deux à égalité, puisqu'ils sont tous les deux dans leur tort. Elle, parce qu'elle vient de tuer son amant, et lui, parce qu'il chasse dans un tonneau. Bon. Ce jour-là même, elle va chez le pharmacien, le personnage capital de Bovary, M. Homais, Et Binet est chez le pharmacien et il demande de l'acide de sucre et de la térébenthine.
Oui.
Bien. Alors ça peut, bon, on peut lire ça et puis dire bon. Seulement, j'ai parlé tout à l'heure d'une merveilleuse prostituée, Kuchukanem, que Flaubert a rencontrée en Orient, et dont la peau était parfumée de térébenthine sucrée. Donc, c'est pas entièrement un hasard si Binet achète de la térébenthine et de l'acide de sucre. En fait, il dit que c'est pour nettoyer ses armes, c'est possible. Enfin, possible. Donc, ça met un rapport tout de même, ça donne à Binet une importance un peu importante. Et puis, ce Binet, avec son tour, il fait des ronds de serviettes. Bien. Or, je crois que là, je ne peux pas être contredit. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un rond de serviette? C'est la lettre O. Bien. Or, le nom de Flaubert s'est écrit F-L-A-U-B-E-R-T seulement depuis le père de Flaubert. Le père du père de Flaubert s'écrivait F-L-O-B-E-R-T. Or, à ce moment-là, mais ça, là, je n'ai pas de certitude, je ne sais pas si Flaubert a entendu déjà parler de cette merveilleuse découverte, il y a un armurier du nom de Flaubert, F-L-O, qui a mis au point une carabine qui allait devenir à la mode. Donc, il y a autour de Binet, de la carabine, de l'eau, du sucre, de la térébenthine sucrée, des éléments qui font que la parenté entre Flaubert et Binet a une certaine importance, consistance en tout cas. Et donc je me suis demandé si finalement ce que Emma était allée demander à Binet, c'était pas, dans la mesure où Binet serait une réplique de Flaubert, de changer la fin de cette histoire qui commençait à la fatiguer tout de même. Voilà.